Chapitre 14. Mésintelligence, solitude. Au mois d'octobre de 1839, le roi Louis-Philippe exprima le désir d'entendre jouer Chopin et il le fit inviter, avec le pianiste Moscheles, à Saint-Cloud. Le comte de Pertuis vint recevoir les deux artistes à la porte du château. On leur fit traverser une file de pièces pour aboutir au salon carré où la famille royale se trouvait réunie en petit comité. Autour d'une table se tenait la reine devant sa corbeille à ouvrage, Madame Adélaïde, la duchesse d'Orléans et les dames d'honneur. Tout auprès, le gros roi remplissait son fauteuil. Chopin et Moscheles furent accueillis en vieille connaissance. Ils se mirent successivement au piano. Chopin joua ses nocturnes et ses études. Moscheles ses études à lui, puis ils exécutèrent à quatre mains une sonate de Mozart. À la fin de l'andante, s'élevèrent en fusée les « délicieux », les « divins », et il leur fut demandé de le recommencer. La fougue de Chopin électrisa l'auditoire, si bien qu'il s'abandonna à un vrai délire musical, enthousiasme de part et d'autre. Chopin reçut en souvenir une coupe de vermeil, Moscheles un nécessaire de voyage. Cette soirée était faite pour stimuler Chopin au travail. Les trois années de la rue Pigalle, 1839 à 1842, qui s'ouvraient sous ses royales auspices, furent bien telles qu'il les avait voulues. De grands et parfaits labeurs. Si l'année 1839 ne vit paraître que trois valses brillantes, elle resta surtout l'année des préludes, le chef-d'œuvre peut-être le plus rare et le plus parfait de Chopin. Vint ensuite la fameuse sonate en si bémol mineur, dont Schumann a dit assez étrangement, voilà les guillemets, « Un certain génie impitoyable nous souffle au visage, terrasse de son poing pesant quiconque voudrait se cabrer contre lui, et fait que nous écoutons jusqu'au bout comme fascinés et sans gronder, mais aussi sans louer, car ce n'est pas là de la musique, la sonate se termine comme elle a commencé, en énigme, semblable à un sphinx moqueur. » Fermez les guillemets. Il consent au printemps de 1841 à rejouer en public, chez Pleyel. Salle comble, naturellement, car à présent c'est Chopin et Liszt qui font à Paris les plus fortes recettes. Quelques semaines plus tard, il partait pour Nohant, plein d'idées mais sans vrai plaisir.
« Je ne suis pas créé pour la campagne. Cependant, je jouis de l'air frais. »
Ce n'était guère. De son côté, Sand écrivait
« Il voulait toujours Nohant, et ne supportait jamais Nohant. »
Ses désirs campagnards étaient vite assouvis. Il se promenait un peu, s'installait sous un arbre ou cueillait quelques fleurs. Puis il retournait s'enfermer dans sa chambre. On lui reprochait d'aimer la vie factice. Ce qu'il aimait plutôt, c'était sa fièvre, son âme baissée en veilleuse, son état de malade ordinaire de Madame Sand. Il cultivait sans s'en rendre compte les vieux penchants de son enfance, ses irrésolutions, sa sensibilité la plus morbide, tous les raffinements de l'élégance et de l'esprit. Et ce qui n'aimait point, il se mit sans y songer à le haïr. Le côté plébéien de Georges, ses rêves humanitaires, ses amis démocrates d'opinion et de naissance, ce Pierre Leroux surtout, si mal propre, si mal peigné, le col saupoudré de pellicules, et qui venait toujours mendier quelques subsides. Ah, qu'il faisait bon voir arriver Delacroix, ce pur dandy tiré à quatre épingles. Lui et Frédéric, ils avaient l'air de deux princes égarés en mauvaise compagnie à cette table où Leroux et les camarades d'atelier de Maurice exagéraient leur tenue débraillée. Les deux artistes se désolaient entre eux avec humeur que Georges toléra tant de sans-gêne. Qu'eût dit Liszt, si difficile sur ce chapitre, et qui s'intitulait « Professeur de bonne manière » Mais Madame Sand ne voulait pas qu'on s'en tînt aux apparences. Elle passait sur les éclats de rire grossiers, les vociférations, les disputes de ses invités, la familiarité de ses domestiques, les souleries de son frère Hippolyte. Elle n'entendait que la sincérité des cœurs, n'écoutait que les doctrines, et ne voulait pas qu'on prît
« les mouches pour des éléphants ».
Elle taxait les agacements de Chopin de maladifs, incompréhensibles, n'y voulait voir que les caprices d'un enfant de génie malade. Il se retirait dans sa chambre, boudait. On ne le voyait plus qu'au repas, où il regardait tout le monde avec méfiance, avec dégoût. Certes, Chopin était jaloux, mais il faut donner à ce mot un sens un peu différent de l'usuel. Ce n'était pas des jalousies d'amant. Sa jalousie s'étendait sur toutes les influences, les désirs, les curiosités, les amitiés de sa maîtresse. C'était le sauvage besoin d'une possession absolue. Il lui fallait savoir à toute heure que toutes les sources vitales de Georges prenaient naissance dans son cœur à lui, que s'il était l'enfant par les sens, il était le père par l'esprit. Il lui fallait sentir que son règne effaçait les règnes précédents, les abolissait, et qu'en l'adoptant, en l'aimant, Georges était né de nouveau. Il aurait voulu qu'elle ignorât l'existence même du mal, qu'elle ne s'en souvînt pas en lui parlant, que sans cesser d'être bonne, tendre, dévouée, voluptueuse, maternelle, elle fût encore la pâle, l'innocente, la sévère, la virginale épouse de son âme.
« Il n'eût demandé que cela, ce pauvre amant de l'impossible, »
notait Sand, et lorsqu'il sentait lui échapper cette universelle propriété que devait lui fournir son amour, il n'en voulait plus. Il en repoussait les dérisoires succédanés. C'est par excès d'appétit qu'il refusait ses faibles nourritures. Gavé de ce qu'il recevait, il restait affamé de ce qu'on ne lui donnait pas. Assurément, il avait quelques raisons d'être jaloux de tous, d'un domestique un peu hardi, du médecin, d'un grand benêt de cousin demi-bourgeois, demi-manant qui venait apporter son gibier à la châtelaine de Nohant, d'un cheminot, d'un braconnier au visage énergique, car le malade aux nerfs aiguisés sentait fort bien quel trouble, quel désir ses passants jetaient dans une femme dont l'exercice des émotions était la vraie loi de connaissance. D'une femme, il le savait, qui n'eut jamais ni peur ni scrupule devant ce genre d'expérience. Alors il trouvait de l'esprit pour la tourmenter.
Il avait l'air de mordre tout doucement pour s'amuser, et la blessure qu'il faisait pénétrait jusqu'aux entrailles.
Puis il quittait la place sur une phrase absolument polie mais glacée, et retournait s'enfermer chez lui. Au cours de ces nuits laborieuses, Georges se servait à elle-même d'écorcher, éplucher l'âme fuyante de son amant, et en bonne femme de lettres qu'elle était, tracer leur double portrait dans sa Lucrezia Floriani. Était-ce inconscience, sadisme, obscure vengeance qui la poussait les lendemains à faire lire par Chopin ses reconstructions impitoyables? Mais l'artiste ne s'apercevait de rien, ou du moins il faisait semblant. Il se penchait sur ses feuilles, il admirait, complimentait. Mais comme toujours, il ne livrait rien de sa vie intérieure, et si Lucrezia se délivrait en s'écrivant, le prince Carole retournait dans sa chambre, où les sons légers du piano interprétaient toute cette misère refoulée. Lui aussi il tenait à sa peine, et même au signe matériel de sa peine.
« Prends bien soin de mes manuscrits, » recommande-t-il à Fontana. « Ne les froisse pas, ne les salis pas, ne les déchire pas. J'aime tant mon ennui écrit que je tremble toujours pour mes papiers. »
« L'amitié de Chopin, »
écrivait Georges, ou bien
« Notre histoire à nous n'avait rien d'un roman. »
Et même
« Son piano était bien plus son tourment que sa joie. »
Ceci montre à quel point les êtres qui ont mêlé leur vie peuvent réserver leur âme. En voici deux bien pénétrantes, bien avides, et qui pourtant ne s'épousèrent jamais. Dans l'automne de 1842, Georges Sand et Chopin quittent la rue Pigalle pour aller s'installer dans les appartements numéro 5 et 9 du square d'Orléans. Entre eux, au numéro 7, habite leur grande amie, Madame Marliani, femme d'un homme politique espagnol. Tout à côté loge Pauline Viardot et le sculpteur Dantan. On établit là une espèce de phalanstère qui les divertit et où la liberté est garantie. Chacun travaille et vit chez soi. Les repas sont pris à frais communs chez Madame Marliani. Sand a un billard, Chopin a un grand salon pour ses pianos. L'ameublement est moderne, de style Louis-Philippe, avec une pendule et des flambeaux empire sur la cheminée. Derrière l'un des pianos, un tableau de frères représente une caravane dans le désert. Au-dessus de l'autre, un pastel de Coigné montre les pyramides. Pendant le jour, on ne se voit guère, mais le soir, ils courent les uns chez les autres comme bons voisins de province. Chopin cultive toujours la société élégante et reçoit chez lui ses élèves titrés et amoureuses. Mais il n'accueille qu'avec beaucoup de répugnance les innombrables pianistes ou curieux qui viennent maintenant lui faire visite et sollicitent son appui. Toute la complication vient de ce qu'il aime encore d'amour alors qu'elle se cantonne depuis longtemps dans l'affection. Son petit Chopin, elle l'aime, elle l'adore, mais comme elle aime Maurice et Solange. Dans les mois où ils vivent séparés, elle est toujours inquiète de sa santé. Elle sait qu'il se gouverne mal, elle écrit aux uns et aux autres pour leur recommander une surveillance discrète. N'oublie-t-il pas d'avaler son chocolat le matin, son bouillon à 10 heures, qu'on l'oblige à se soigner, à ne pas sortir sans foulard? Mais lui, il a trouvé un moyen neuf pour exalter encore des sentiments dont le déséquilibre même est un actif stimulant de production artistique. Il ne veut pas lui donner de soucis, il la laissera dans l'ignorance de son mal moral et physique, de ses angoisses, de ses crachements de sang. Quel, du moins, est le repos nécessaire à sa tâche? Dans tout sacrifice consenti à l'amour, il y a des joies humbles et d'autant plus profondes qu'elles restent cachées. Mais c'est l'amour le plus enseveli qui nourrit le mieux. Georges passe maintenant une partie de ses hivers à la campagne, tandis que Chopin se fatigue à Paris. Il s'agit de n'en rien laisser voir. Ses lettres sont gaies, confiantes. La maladie est loin, à ce qu'il prétend. Il n'a que du bonheur devant soi.
Votre jardinet du square d'Orléans est tout en boules de neige, en sucre, en cygne, en hermine, en fromage à la crème, en main de Solange et en dents de Maurice. Soignez-vous, ne vous fatiguez pas trop avec vos paquets. Votre toujours plus vieux que jamais et beaucoup extrêmement incroyablement vieux.
Peut-être ne s'est-il jamais senti plus seul, le petit souffreteux, comme le nommait sa maternelle amie. Mais c'est un homme de solitude. À 40 ans de là, j'en vois un autre qui lui ressemble, et se nourrit lui aussi d'un moi terriblement dur, un moi qui, pas plus que celui de Chopin, ne peut se répandre sur les êtres, saigner sur eux, parce qu'il est trop haut, trop sauvage, trop pudique. C'est Nietzsche. Il n'est pas surprenant que Nietzsche aimât Chopin à l'égal d'un frère choisi. Leur amour à tous deux était trop grand pour leur cœur. Lorsque j'entends jouer le Nocturne en ut mineur, opus 48, où, sous tant de souffrances réservées, éclate pourtant mêlé au malheur cet idéal qui ne se construit que sur les joies créatrices de l'esprit, je pense à une page écrite par Nietzsche dans une loggia qui domine la place Barberini à Rome au mois de mai 1883. C'est ce beau chant de la nuit où passent les visions noires et bleues de Chopin, son regard de fleur, ses yeux de jeune fille et son cœur si extrêmement, incroyablement vieux. Quelques fragments de ces strophes me paraissent fournir au nocturne dont je parle et aux solitudes finales où le poète va maintenant entrer un commentaire digne d'eux. Avant de les rapporter, je dirai encore qu'une tradition parmi les artistes polonais veut que ce morceau ait été composé un jour d'orage où Chopin s'était réfugié dans l'église de Saint-Germain-des-Prés. Il écouta l'office parmi les roulements du tonnerre et, rentré chez lui, improvisa l'admirable chorale qui forme le centre de cette solennelle élévation. Mais cela ne me retient nullement d'associer cette prière au chant païen de Nietzsche. Bien au contraire, l'une et l'autre ont cet élan, ce point d'enthousiasme qui fait s'écrier le philosophe « Il y a en moi un désir d'amour qui parle lui-même le langage de l'amour. » Le chant de la nuit. Il fait nuit. Voici que s'élève plus haut la voix des fontaines jaillissantes. Et mon âme, elle aussi, est une fontaine jaillissante. Il fait nuit. Voici que s'éveillent tous les chants des amoureux. Et mon âme, elle aussi, est un chant d'amoureux. Il y a en moi quelque chose d'inapaisé et d'inapaisable qui veut élever la voix. Il y a en moi un désir d'amour qui parle lui-même le langage de l'amour. Je suis lumière. Ah, si j'étais nuit! Mais ceci est ma solitude, d'être enveloppé de lumière. Ma pauvreté, c'est que ma main ne se repose jamais de donner. Ma jalousie, c'est de voir des yeux pleins d'attente et des nuits illuminées de désir. Ô misère de tous ceux qui donnent! Ô obscurcissement de mon soleil! Ô désir de désirer! Ô faim dévorante dans la satiété! Ainsi chantait Zarathoustra.